Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 26 mars 2021. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, Patrick Hachi, confirmé au poste de chef de gouvernement, doit s'atteler à former une nouvelle équipe. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a assuré que l'armée érythréenne va se retirer du Tigré. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a promis de sanctionner les responsables de la collision ferroviaire qui a fait au moins 32 morts. La France est restée aveugle face à la préparation du génocide rwandais selon les conclusions du rapport d'une commission d'historiens. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En Côte d'Ivoire, Patrick Hachi, ex-secrétaire général de la présidence et chef du gouvernement par intérim depuis le 8 mars, a été confirmé à son poste de premier ministre par le président Alassane Ouattara. Il doit maintenant former une nouvelle équipe suite à la victoire du RHDP aux dernières législatives. Les détails avec Nani Talani.
Patrick Hachi a été nommé premier ministre et chef du gouvernement et le président de la République lui demande de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais, stipule un décret lu par Fidel Sarasoro, nouveau secrétaire général de la présidence. Âgé de 66 ans, Patrick Hachi a été nommé premier ministre par intérim le 8 mars suite à la mort d'Ahmed Bakayoko le 10 mars. Monsieur Hachi est né à Paris d'un père ivoirien et d'une mère française. Il a déjà été ministre des infrastructures et porte-parole du gouvernement sous l'ancien président Laurent Gbagbo. Il est resté aux infrastructures pendant 17 ans sous 5 chefs de gouvernement avant d'être nommé par le président Ouattara ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Lors des dernières législatives du 6 mars, il a été réélu député de son fief d'Adzopé, de la région de la Mé, dont il est également président du conseil régional. La Côte d'Ivoire a perdu 2 ministres à 8 mois d'intervalle, Amadou Gon Coulibaly, mort à 62 ans le 8 juillet 2020, puis Ahmed Bakayoko, décédé à 56 ans le 10 mars de cette année.
Toujours en Côte d'Ivoire, 38 enfants burkinabés destinés au travail dans les mines et les plantations ont été secourus et seront rapatriés, a annoncé le ministre de la Famille et de l'Enfant, Ramata Ali Bakayoko, lors d'une cérémonie avec ses mineurs. « Nous ne pouvons permettre ce trafic inhumain », a déclaré la ministre, promettant une lutte acharnée contre le travail des enfants. Le directeur de lutte contre le trafic des enfants, Luc Baka, a indiqué que les enfants étaient dans un car en direction d'Abouasso. 4 trafiquants ont été interpellés. Au Nigeria, 25 miliciens d'un groupe d'autodéfense et un militaire ont été tués lundi dans un village de l'État du Niger, ont annoncé les autorités locales. Des dizaines d'hommes arrivés à moto près de Kotonkoro, dans le district de Mariga, ont tendu une embuscade aux miliciens du village. En France, un ancien ministre burundais de la justice et son épouse ont été condamnés à 2 ans de prison avec sursis pour avoir exploité un compatriote pendant plusieurs années à leur domicile de la région parisienne. La cour d'appel de Versailles a reconnu les époux Mposagara, non présents à l'audience, coupables de traite d'êtres humains et d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers. La France est demeurée aveugle face à la préparation du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 et porte des responsabilités lourdes et accablantes dans la tragédie, selon les conclusions du rapport d'une commission d'historiens publié ce vendredi. Le point avec Lionel Gaïma.
Ce rapport très attendu, remis au président Emmanuel Macron, pointe à la faillite de la France au Rwanda entre 1990 et 1994 et son aveuglement face à la dérive génocidaire du régime raciste, corrompu et violent du président Hutu Juvenal Habyarimana. Cependant, le rapport souligne que rien ne vient de montrer que Paris s'est rendu complice du génocide. La commission de 14 historiens, présidée par Vincent Duclerc, a été mise en place en 2019 par le président Emmanuel Macron. Ils ont passé aux cibles des dizaines de milliers d'archives et assurent que François Mitterrand, le président français de l'époque, entretenait une relation forte, personnelle et directe avec Juvenal Habyarimana, l'ancien président rwandais. Cette relation a justifié la livraison d'armes et des munitions en quantité au régime rwandais de l'époque. Selon cette commission, la France aussi réagit tardivement avec l'opération Turquoise entre juin et août 1994 qui a permis de sauver des vies, mais non celles de la grande majorité des Tutsis exterminés dès les premières semaines du génocide.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a assuré que l'armée érythréenne va se retirer du Tigré. Ses forces ont franchi la frontière après le début du conflit en novembre dans cette région du nord de l'Éthiopie. Le point avec Eric Manirakiza.
Abiy Ahmed l'a déclaré à l'issue d'une rencontre avec le président érythréen. Mardi, il a admis pour la première fois devant le Parlement que des troupes érythréennes étaient présentes sur le sol tigréen. Il s'est ensuite rendu hier à Asmara, capitale de l'Érythrée. Le parti d'opposition tigréen Salsei Weyan Tigré a déclaré vendredi que tout accord sur le retrait de l'Érythrée était inutile sans un organisme de réglementation internationale pour vérifier. Selon Abiy Ahmed, les troupes érythréennes ont pris le contrôle de zones proches de la frontière, mais des groupes de défense des droits humains et des habitants du Tigré ont, eux, décrit une présence érythréenne beaucoup plus loin dans la région. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait appelé au retrait des Érythréens ainsi que des forces de la région éthiopienne d'Amara qui ont également joué un rôle dans la sécurisation de certaines parties de l'ouest et du sud du Tigré.
Les camps de réfugiés érythréens de Chimelba et Itsat dans la région éthiopienne du Tigré sont totalement détruits, affirme le HCR qui a pu se rendre sur place pour la première fois depuis novembre. Toutes les installations humanitaires ont été pillées et vandalisées, a indiqué l'agence onusienne. En Tanzanie, le corps du président John Magufuli a été inhumé aujourd'hui dans sa ville natale, dans le nord-ouest du pays. Après l'exposition du cercueil dans plusieurs grandes villes et des funérailles en présence de certains chefs d'État de la région le 22 mars à Dodoma, la dépouille de M. Magufuli a été enterrée à Chato. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a annoncé l'isolement de Nairobi et de 4 autres comtés voisins, ainsi que la fermeture des écoles face à la troisième vague de Covid-19. Monsieur Kenyatta a précisé que le taux de positivité des tests est passé de moins de 3% fin janvier à 20% actuellement. La capitale totalise 60% des cas recensés. Le sud-ouest de l'Angola est touché par la sécheresse depuis décembre avec de très faibles précipitations, a indiqué Thomson Phiri, porte-parole du Programme alimentaire mondial à Genève. La saison des pluies s'étend de novembre à avril, mais jusqu'à présent, il n'y a quasiment pas eu de précipitations, a-t-il expliqué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a promis des sanctions dissuasives à toute personne responsable de la collision de 2 trains de voyageurs qui a fait au moins 32 morts et 108 blessés près de Souaq dans le sud de l'Égypte. Le point avec Michel Joseph.
32 citoyens sont morts dans la collision de 2 trains à Tata, à environ 460 km au sud du Caire, a annoncé le ministère de la Santé. Selon l'autorité égyptienne des chemins de fer, le train Luxor-Alexandrie et le train Assouan-Le Caire roulaient sur la même voie, dans le même sens. Ils sont entrés en collision après que des individus non identifiés ont actionné le frein de secours dans l'un des 2 trains. Des images d'une caméra de surveillance montrent une collision d'une extrême violence dans laquelle un wagon est projeté en l'air dans un nuage de poussière. Le président Abdel Fattah al-Sissi a écrit sur Twitter que quiconque a causé ce douloureux accident doit recevoir une sanction dissuasive sans exception ni délai. Le parquet égyptien a ouvert une enquête pour élucider les circonstances. La collision de ce vendredi intervient alors qu'un porte-conteneur est coincé depuis 4 jours en travers du canal de Suez, une voie cruciale pour le fret maritime mondial.
Deux remorqueurs supplémentaires de 220 à 240 tonnes arriveront d'ici dimanche pour aider la remise à flot du navire qui empêche la traversée du canal de Suez. Pandémie de Covid-19, la France va intensifier le contrôle des restrictions de mouvement dans les gares, aéroports et péages routiers face à une situation jugée critique avec prédominance du variant britannique. Dans 19 départements, les déplacements au-delà de 10 km sont interdits sans dérogation. Dans le reste du pays, un couvre-feu est en vigueur de 19h à 6h. Tous les bars et restaurants sont fermés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Lyndon.
Au Bénin, le gouvernement multiplie les mesures pour renforcer la commercialisation de la noix de cajou conformément à son engagement pris en 2016. Le secteur connaît de bonnes perspectives de rendement cette année grâce à un climat favorable. Le kilo de noix de cajou cette saison va s'échanger au prix plancher de 300 francs CFA contre 325 francs l'an dernier. En Afrique du Sud, les producteurs d'avocats font face à un phénomène récurrent, celui du vol de leur production. Les pillages de vergers se comptent en milliers de tonnes et les pertes en millions d'euros pour beaucoup de producteurs sud-africains. Ces vols se multiplient à cause du boom de la consommation d'avocats.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. Éliminatoire de la CAN 2021 au Cameroun. Plusieurs matchs au programme aujourd'hui à Bujumbura. Match nul entre le Burundi et la RCA. 2 buts partout. La seconde période de cette rencontre a été perturbée et retardée par une forte pluie. La Centrafrique a d'abord fait un doublé avec lui Mafuta à la 40e et 53e minute. Mais les Hirondelles sont revenues au score grâce à l'ancien Canin Tibazon Kiza à la 59e et à Ndouarou Guira à la 80e. Un score de parité qui qualifie d'office les Lions de l'Atlas avant même la confrontation de ce soir entre le Maroc et la Mauritanie. La Guinée-Bissau, elle, a écrasé 3-1 l'Eswatini à l'Obamba, s'assurant ainsi d'avoir toujours une chance mathématique de se qualifier. Le Cap-Vert affronte les Lions indomptables déjà qualifiés parce que le Cameroun est pays organisateur de cette CAN 2021. Ce soir aussi, les Lions du Sénégal se déplacent à Brazzaville et puis se choquent à Niamey entre le MENA du Niger et les éléphants de Côte d'Ivoire. Rappelons que comme les Comores, la Gambie participera également à sa première CAN en janvier prochain après qu'un but d'Assane Cissé lui a permis de battre l'Angola 1-0. Elle sera rejointe dans le groupe D par le Gabon qui a battu la République démocratique du Congo 3-0 à Franceville. Une CAN sans les léopards. À Kinshasa, la pilule a du mal à passer.
Dans l'obligation d'un nul, mieux d'une victoire avant d'affronter les Gabons en match de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 pour rester en course. En attendant les matchs de la dernière journée face à la Gambie à domicile, les Léopards de la RDC ont lourdement chuté, battu 3-0 par les Panthères du Gabon. Une défaite aux lourdes conséquences puisque dans l'autre match du groupe, la Gambie battait l'Angola sur le score d'un but à 0. Une défaite de l'Angola qui a réduit en néant les espoirs congolais. Quelle qu'en sera l'issue du dernier match contre la Gambie à Kinshasa au stade des Martyrs. Une coupe Afrique des Nations à 24, sans la RDC, la pilule a du mal à être digérée quand on sait que cette élimination de la RDC avant la dernière journée des éliminatoires de la CAN vient mettre au rouge les indicateurs du football congolais, sélection nationale et club y compris, puisque Mazembe et Vita Club sont à mal des positionnements en face des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. De Kinshasa, Valdeci Moyamba, VOA Afrique.
Et demain samedi à Maseru, explication entre le Lesotho et la Sierra Leone. Et puis ce match entre voisins d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria contre le Bénin. Ce sera à 16h à Porto Novo. Bien sûr, lundi, notre ami Élisée Mpatino Bénin reviendra sur cette rencontre. Et pour terminer, à NBA, Philadelphie, plus que jamais leader à l'Est, a remporté hier 109 à 101 chez les Lakers. Un duel entre favoris longtemps sans grande saveur, en l'absence de LeBron James, d'Anthony Davis et de Joel Embiid. C'est l'ancien artilleur des Lakers, Danny Green, avec 28 points, qui a joué un mauvais tour à son ancienne équipe en inscrivant 8 paniers à longue distance, dont le dernier à 30 secondes de la fin, pour repousser définitivement des Californiens revenus à 2 points après en avoir compté 18 de retard à la barre du Money Time. Une bonne soirée donc pour son retour à Los Angeles, où il a pu récupérer, avant la rencontre contre Dwight Howard, sa bague de champion NBA.
Merci beaucoup, Bagassi, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Un rapport sur le rôle de la France avant, pendant et après le génocide de 1994 au Rwanda doit être remis ce vendredi au président Emmanuel Macron. Il s'agit d'un rapport de 14 historiens qui ont eu accès à des milliers d'archives sur le génocide. Sa publication pourrait marquer une étape importante dans les relations dégradées entre la France et le Rwanda. Mouamadou Oumfa a joint Athanase Karayenga, journaliste indépendant et analyste politique burundais.
Je pense que c'est l'aboutissement d'une pression qui est montée en puissance et en force depuis plusieurs années. Il y a eu beaucoup de chercheurs, beaucoup d'historiens, beaucoup de journalistes, beaucoup d'ONG, d'associations, d'anciens militaires qui ont écrit, qui ont témoigné, qui ont montré des failles dans le discours classique du gouvernement français de l'époque, et qui ont mis à mal cette théorie d'une force humanitaire de la turquoise. Et je crois que c'est donc l'aboutissement de tout ça, du travail de Patrick de Saint-Exupéry, de l'association Survie, beaucoup d'autres personnes depuis plusieurs années demandent à la France de clarifier sa position. Et c'est donc, à mon avis, l'aboutissement de cette pression qui est relayée cette fois-ci par la politique, le politique au plus haut niveau, le président Macron.
Alors, selon vous, en attendant d'avoir le contenu détaillé du rapport, est-ce que la France a quelque chose à se reprocher au Rwanda? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est co-responsable du génocide? Ou alors est-ce qu'elle a joué un rôle trouble, selon vous?
J'exclus la notion de co-responsabilité, parce que c'est la justice qui doit le dire. Ce n'est pas une analyse politique, ce n'est pas une analyse journalistique. Le génocide, c'est un crime. C'est un crime. C'est le crime des crimes. Et il n'est pas possible d'affirmer, quand tu n'es pas juge, que quelqu'un est co-auteur d'un crime. Donc la France, elle pourra être jugée, la participation du gouvernement français pourra être jugée comme une participation criminelle, mais surtout, sans doute, des noms de personnes qui sont encore vivantes, peut-être pas le président Mitterrand, puisque c'était lui qui prenait les décisions les plus importantes, mais il y a d'autres personnes qui pourraient être cités comme ou des témoins ou des complices. Donc j'exclus la notion de complicité parce que ça suppose tout de même une étape de justice. Par contre, et c'est tout l'aboutissement, c'est tout le travail qui a été fait par les écrivains, par les journalistes, les investigations, les enquêtes de justice qui se sont suivies depuis 27 ans. Tout ce travail de recherche a abouti à un questionnement très sérieux. Quel rôle la France a joué vraiment ?
Athanase Karayenga, journaliste indépendant et analyste politique burundais, était joint en France. En République démocratique du Congo, la justice a ouvert une enquête contre l'ancien chef de la police, John Numbi, proche de l'ex-président Joseph Kabila. Le général est soupçonné d'être le commanditaire de l'assassinat en 2010 du défenseur des droits humains Floribert Chebeya. Eddie Issango a joint à Kinshasa le ministre de la Justice par intérim, Bernard Takaïché.
Il y a eu des dénonciations. Les familles des victimes ont dénoncé certains faits impliquant M. John Numbi comme étant parmi les gens qui avaient perpétré les crimes. Et au vu de ces allégations, au vu de ces faits-là, de ces dénonciations, l'officier du ministre public a ouvert un dossier et il est en train de mener des enquêtes là-dessus. Voilà, si vous voudrez que je confirme qu'il y a des enquêtes, oui, il y a des enquêtes parce qu'il y a eu des allégations, il y a eu des faits qui ont été dénoncés par les familles des victimes.
Nous avons appris qu'il y a eu perquisition dans sa ferme et que l'on n'aurait pas trouvé. Par ailleurs, on aurait plutôt malmené ou arrêté ses gardes du corps.
Non, aucune perquisition n'est encore faite jusqu'au là. Mais ce qui est évident est que Kitesse avait été cité par les gens qui ont dénoncé ce fait-là. Ce site a été sécurisé et il y aura effectivement la fouille dans ce site. Et nous attendons tous le moment venu, c'est que sera le résultat de ces fouilles-là.
Ah, vous parlez des sites qu'ont dénoncé deux des anciens policiers à la Voix de l'Amérique, notamment, où ils parlaient de sites, oui, où serait enterré M. Fidel Bazama.
Oui, ce site-là est sécurisé, comme je venais de le dire, est sécurisé. Et au moment venu, on va procéder à la fouille, à la recherche. Et vous serez tenu au courant du résultat de ces recherches-là au moment venu.
Il y a aussi des ONG des droits de l'homme qui ont parlé de sa fuite.
Moi, je ne dois pas me contenter de ce que disent les organisations de droits de l'homme. Moi, je suis un officiel. Ils ont dit ce qu'ils ont dit. Mais ce droit de l'homme ne dépend pas du ministère de la Justice. Il dépend plutôt du ministère de la Défense. Et si on doit le chercher, c'est au ministre de la Défense qu'on peut poser cette question-là, savoir s'il est là ou il n'est pas là. Mais lorsque la justice va le rechercher, c'est en ce moment-là que moi, je serai de répondre à certaines questions relatives à sa fuite ou pas. Pour le moment, il n'en est pas question parce que l'officier du ministère public, comme je venais de le dire, est en train de mener des enquêtes et on sera fixés tous un peu plus tard.
La presse congolaise vous a cité disant que vous avez dit que vous aviez enclenché le processus demandant au Zimbabwe de voir s'il est là-bas et d'éventuellement les ramener à Kinshasa.
Non, je ne peux pas me contredire. On ne peut pas envisager l'extradition tant que les enquêtes n'ont pas encore abouti à l'inculpation de cet monsieur, c'est-à-dire qu'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur la personne, le ministère public sera obligé, soit lorsqu'il va le rechercher et le localiser, on va émettre un mandat d'amener au cas où on ne sait pas le localiser, on va faire un avis de recherche.
Bernard Takaïché, ministre intérimaire de la Justice en République démocratique du Congo, joint à Kinshasa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Persistance de la hausse des prix des produits alimentaires au Nigeria. Il faut aujourd'hui débourser deux fois plus qu'il y a cinq ans. Selon les données du Bureau national des statistiques, les prix des denrées alimentaires ont atteint leur plus haut niveau en plus de 12 ans. Notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba, s'est rendu dans un marché de la capitale fédérale, Abuja.
Angela Dominique vend des produits alimentaires dans l'un des plus grands marchés d'Abuja, Garki. Elle attribue la montée des prix des produits alimentaires à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Ces marchandises sont chaque fois transportées depuis le sud pour Abuja, la capitale fédérale.
La plus grande partie de mes marchandises est transportée de l'intérieur du pays. Donc, si j'achète par exemple une marchandise de 5000 naira et que le prix du carburant est élevé, définitivement mon prix va augmenter. Ensuite, si je vendais quelque chose à 500 naira avant, définitivement je vais ajouter le prix. Et ce cercle continue.
Certains vendeurs affirment qu'il est difficile d'écouler ces produits. C'est le cas d'Aboubakar Moudjahid, installé dans sa petite boutique.
Rien ne se passe maintenant comme avant. L'année dernière, avant Noël, on vendait beaucoup, mais aujourd'hui, c'est le contraire. Parce qu'avant Noël, on pouvait vendre jusqu'à 200 ou 150 000 nawa par jour. Mais maintenant, c'est entre 50 et 30 000 nawa par jour. Les achats ont beaucoup diminué.
La situation est plus grave chez les acheteurs, qui ne peuvent plus trouver tout ce dont ils ont besoin pour leur famille, parce que les prix élevés des denrées alimentaires ont continué de grimper sous la dure réalité économique actuelle. Quincy Daniel était venu pour acheter un demi-sac d'igname, mais le montant en sa possession n'a pu suffire.
Avec le montant que j'ai, je ne peux rien trouver. Je ne peux rien faire. La vie est devenue très difficile pour les populations ordinaires. Le gouvernement doit nous aider. Sans les agriculteurs dans ce pays, on ne peut rien faire. Nous allons mourir de faim. Le gouvernement doit mettre fin à l'insurrection dans le nord. Comme ça, les agriculteurs vont retourner dans leur village pour reprendre leurs activités agricoles et donner de la nourriture aux gens.
La hausse des prix est largement attribuée à la forte inflation et à la rareté de certains produits alimentaires en raison de l'insécurité causée par les attaques des groupes armés contre les agriculteurs à travers le pays. Mohamedou Salif Oumar, vendeur d'igname originaire du Nord, partage les inquiétudes de Quincy Daniel.
Ces difficultés sont le résultat de l'insurrection dans le pays. Personnellement, dans mon village, beaucoup de personnes ont fui laissant derrière leurs champs et leurs maisons. Personne ne sait où se trouvent ces gens aujourd'hui.
La récente décision des commerçants du Nord de ne plus transporter des denrées alimentaires de la région vers le Sud a encore aggravé la situation. À quelques trois semaines du début du jeûne du Ramadan pour les musulmans, une autre période connue pour l'augmentation des prix des produits alimentaires, les observateurs estiment que les Nigériens ne devraient pas s'attendre à une baisse des prix des denrées alimentaires aussitôt. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Le mélomane camerounais Paul Tchana a ouvert un petit magasin de disques au début des années 80. Sa fierté, une collection de plus de 5000 disques vinyles originaux. Lorsque les disques compacts sont arrivés, sa boutique a connu des difficultés, mais elle s'est finalement transformée en une sorte de musée, avec des clients qui s'y rendent pour en apprendre davantage sur l'histoire de la musique. Un reportage d'Anne Zwanke à Yaoundé, le récit est de Lionel Gaïma.
Paul Tchana a commencé à vendre des disques vinyles au Cameroun au début des années 80 dans une petite boutique de seulement 6 mètres carrés. Lorsque les disques compacts CD ont fait leur apparition, il s'est trouvé avec un stock croissant de disques invendus. Mais au lieu de passer au CD, il a acheté encore plus de disques dans d'autres magasins qui ont fait faillite et a commencé à vendre à des collectionneurs étrangers. Tchana présente ainsi sa clientèle.
J'ai mes clients de vinyles, que ce soit au Cameroun, que ce soit hors du pays. 95% même, c'est hors du pays. Ceux qui sont en Europe, souvent ma partie d'Europe, on commande des vinyles, soit ils ont les frais qui vont au Cameroun.
Bien que la superficie de la petite boutique de Tchana soit toujours la même, sa collection a augmenté à plus de 5000 disques stockés principalement à la maison. Mais la boutique est devenue une sorte de musée du vinyle. Ce qui fait le plaisir des collectionneurs comme Bertin Achouké.
Ça fait très plaisir de constater que les disquettes ont conservé les vinyles là pour longtemps. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ceux qui viennent de naître, ne connaissent pas ça. Si on ne leur dit pas qu'il y avait des trucs comme ça avant, ils ne peuvent pas savoir.
Paul Tchana dit que les jeunes confondent souvent sa boutique avec une librairie.
Qu'est-ce qu'on appelle livre? C'est ce vinyle ici, parce qu'ils n'ont jamais vu. Ils croient que ça, c'est le livre. Je dis non, mon fils, ça, ce n'est pas le livre, ça, c'est un vinyle. Ils sont surpris, ils n'ont jamais vu ça.
Le Musée national du Cameroun, qui dépend du ministère des Arts et de la Culture, applaudit des collections comme celle de Tchana. Écoutons Hugh Human, un responsable du musée.
Se rapprocher du ministère des Arts et de la Culture, où il y a des services spécialisés qui peuvent l'aider. Il y a un, à inventorier, deux, numériser, documenter, et même l'ouvrir à la diffusion, à la jeune génération puisse en profiter.
Si le vinyle n'était pas aussi populaire qu'auparavant, il occupe toujours une place particulière dans le cœur des anciens vendeurs de disques et amateurs de musique du Cameroun. Les collectionneurs comme Chana se souviennent avec tendresse de la technologie musicale d'un temps revenu.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24.